Oh, mikir sepastil.
Mikir sepastil.
Oh, mikir sepas.
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, heureux de vous retrouver dans les nouvelles du monde pour ce mardi 10 mars. Bon, autant dire que ces deux semaines de vacances n'ont pas été de tout repos du côté de l'actualité. Enfin, pour ma part, justement, j'y ai un petit peu moins mis le nez dedans, mais il s'en est passé des choses, donc bon, on va pas faire un petit récapitulatif de tout ce qui s'est passé, notamment au Moyen-Orient, et puis aussi sur l'actualité française. C'est les municipales, hein, qui occupent le gros des unes et des dossiers de nombreuses rédactions. Donc vu qu'on ne couvre pas les municipales dans le sens où on ne s'intéresse pas et on ne fait pas la promotion des listes des différentes communes de notre territoire, on parlera certainement de thématiques communes, mais on ne viendra pas justement sur toutes les listes et les débats locaux, parce que sinon ça nous obligerait à le faire pour tout le monde et ça serait bien trop de travail. Mais pendant ce temps-là, l'actualité sociale, elle continue avec des dates aussi symboliques comme ce 14 mars qui arrive. Tout d'abord, un communiqué donc de la marche des solidarités. Ça s'appelle la riposte non au racisme et au fascisme. Et donc, le week-end prochain, le 14 mars, plus de 70 villes ou villages diront non au racisme, aux fascistes et aux violences d'État. La mort d'un jeune fasciste à Lyon n'y change rien. L'offensive actuelle de toutes les franges de l'extrême droite et du fascisme, du RN et de Reconquête aux groupes royalistes et néo-nazis ne fait que l'illustrer. Il est urgent de s'organiser contre le racisme et pour barrer la route au fascisme. Ce sont les quelques mots donc, de cet appel à la marche des solidarités. Ils appellent à construire partout la mobilisation dans chaque quartier, lieu de travail et d'études, et à manifester dans l'unité sur tout le territoire, donc ce samedi 14 mars, contre le racisme, les fascistes et les violences d'État. Ils appellent également tout mouvement social et politique à affirmer sa solidarité avec les organisations qui sont menacées par l'extrême droite, en premier lieu donc le parti La France Insoumise ou le syndicat Solidaire, hein, puisque des locaux de ces deux organismes ont été attaqués. Et le communiqué termine « En France, comme à Minneapolis, nous sommes la majorité, notre arme est la solidarité et notre force est dans la rue ». Pour les manifestations donc autour de chez nous, ce samedi 14 mars, ça sera à Nîmes, Maison Carrée à partir de 13h30, sur la base de deux appels nationaux, donc de la marche des solidarités que je viens de vous lire, et aussi du collectif Né d'ici ou venu d'ailleurs. Ils appellent à manifester contre le racisme, et en joignant donc cette manifestation pour la demande des droits de ceux qui sont notamment notre demandeur d'asile ou justement déboutés. Le rendez-vous, donc, c'est, je vous disais, c'est à 13h30, Maison Carrée à Nîmes, puis un défilé qui aboutira place Saint-Charles à Montpellier. Le rendez-vous, lui, se fera place de la Comédie. Et puisqu'on est dans les week-ends et les marches de mobilisation, un petit retour aussi sur ce 8 mars, la journée internationale de lutte pour les droits des femmes, et ce petit article du Courrier international qui reprend les colonnes d'El País, le journal espagnol, et qui justement met un petit peu la focale sur la symbolique et la portée de cette journée et de ces luttes, notamment sur le continent sud-américain ou latino-américain, dirait-on, pour englober aussi le Mexique et l'Amérique centrale. Sur le continent latino-américain, donc, dit cet article, la journée internationale des droits des femmes a eu une coloration particulière ce dimanche 8 mars, dans un contexte d'élections dans plusieurs pays et de l'arrivée au pouvoir de figures conservatrices, notamment au Chili. La mobilisation du 8 mars a eu une résonance singulière dans une région qui vire à droite, avec des gouvernements extrémistes qui vont jusqu'à contester les droits des femmes, comme c'est le cas pour l'Amérique centrale, et où être une femme vous expose à un danger de mort. Ces mobilisations ont été l'occasion de lancer un appel au changement. du Venezuela au Chili, en passant par le Mexique. Des images vidéo diffusées notamment par, je vous le disais, El País, montrent la présence de dizaines de milliers de manifestantes et de manifestants sur l'ensemble du continent. Au Chili, l'arrivée au pouvoir mercredi 11 mars de l'ultra-conservateur José Antonio Kast était bien présente dans l'esprit de tous, de toutes et tous qui se trouvaient dans la rue. Les manifestants étaient appelés à se mobiliser sous le slogan « Pas un seul pas en arrière, sans en avant ». Le futur président, cette fois-ci, a, contrairement à sa participation à la campagne présidentielle de 2021, remporté l'élection avec justement un silence stratégique sur la question des libertés individuelles et notamment du droit à l'avortement. Et alors que débute aussi en même temps la campagne pour la présidentielle au Brésil, elle aura lieu en octobre, le président Lula et son opposant à droite, le sénateur Flavio Bolsonaro, ont envoyé des messages à l'occasion de cette journée. Le fils aîné de l'ex-dirigeant d'extrême droite, donc Jair Bolsonaro, donc son fils Flavio, s'est concentré, lui, sur la famille et le manque de crèches, tandis que Lula, en poste actuellement, a déclaré que toutes les 6 heures, un homme tuait une femme au Brésil. Une triste vérité, explique le site d'information El País América, dans ce pays, donc le Brésil, où en 2025, le nombre de féminicides a battu un record avec 1470 cas qui ont été relevés entre janvier et décembre, selon les chiffres du ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Et enfin, mention au Mexique, où des milliers de femmes, là aussi, se sont mobilisées ce dimanche, avec les chiffres de 2025 qui font, eux, état d'une moyenne de 7 féminicides par jour. Ce que vous entendez là, ce n'est pas le Brésil ni le Mexique, c'est Montpellier, où malgré la pluie, plus de 2000 personnes ont manifesté aussi ce dimanche 8 mars. Quelques jours auparavant, donc, ce rassemblement, un appel spontané était relayé par la coordination contre les violences de genre pour une marche nocturne, féministe et antifasciste. Si les organisatrices n'étaient pas certaines jusqu'au dernier moment de qui répondrait à l'appel, une petite semaine de communication sur les réseaux sociaux auront finalement réuni à suffire environ 300 personnes le samedi 7 mars au soir, donc une marche de nuit, manière aussi de revendiquer la sécurité dans la rue pour les personnes qui sont victimes de violences et de harcèlement. Après un discours de quelques minutes des organisatrices rappelant la montée certaine et en accéléré du fascisme, elles ont invité la foule à ne pas céder face aux nazis, aux idées fascistes et à continuer à prendre la rue, toute la place et faire du bruit. Et le lendemain, donc le dimanche 8 mars, à 14h, un appel était donné par la coordination féministe qui réunit plusieurs syndicats et associations, notamment Solidaire, la CGT ou bien le Planning Familial. Plusieurs marches matinales avaient aussi eu lieu à Ganges, Agde, Béziers ou Sète. Et c'est donc ensuite à Montpellier à 14h sur la Comédie que le rendez-vous a été donné donc, pour un grand rassemblement. Quelques prises de parole ont ponctué au démarrage donc, par l'interorga de cette marche qui ont rappelé les inégalités salariales, sociales et économiques des femmes et minorités de genre. Par exemple, le temps partiel imposé, des emplois mal rémunérés, un salaire en moyenne inférieur d'un quart à celui des hommes, 62% des personnes qui sont payées au SMIC et 70% des bénéficiaires des banques alimentaires qui sont des femmes. Quelques chiffres donc rappelés en préambule de cette marche qui s'est déroulée sous pluie battante, mais auxquelles la batucada et la fanfare ont répondu tambour battant pour faire danser les quelques milliers de personnes présentes avec Kawé et pancarte imperméabilisées. La banderole de tête annonçait la couleur grève féministe, riposte antifasciste. Elle a été suivie de plusieurs cortèges, dont celui remarqué de Révolution permanente, qui s'intitule « Du pain et des roses ». Et il arborait, lui, une banderole féministe anti-impérialiste contre l'austérité et la guerre. La banderole du syndicat Solidaire avait, elle, pour slogan « Féminisme de lutte de classe et révolutionnaire » ou encore « Notre féminisme est antifasciste ». Donc une marche très ancrée, ce qui venait aussi rappeler les menaces du groupe Némésis de participer à la marche de Paris, auxquelles elles ont finalement renoncé. Voilà, donc après 2 heures de défilé, c'est sur la place de la Comédie que les dernières prises de parole ont eu lieu. « Et on reste dans les colonnes du Point, le média de Montpellier, pour relater un autre rassemblement, un peu plus discret, mais néanmoins très important aussi, qui a eu lieu la veille, donc le samedi 7 mars. C'est une cinquantaine de personnes qui se sont rassemblées, là encore, place de la Comédie, pour rendre hommage aux sans-abri décédés dans la rue pendant l'année. Une dizaine de participants se sont allongés sur des couvertures de survie pour un die-in au pied de la fontaine des Trois-Grâces. Tout autour, des pancartes déposées à même le sol et des silhouettes tracées à la craie rendaient donc hommage aux disparus. Chacun pouvait symboliquement y déposer une fleur et une bande sonore égrenait les noms et les dates de décès des personnes sans abri, histoire justement que cela ne soit pas que des chiffres lus dans les petites colonnes des journaux, une fatalité auquel justement ces participants veulent s'opposer. On ne voulait pas que ce soit des chiffres, montrer qu'on ne les oublie pas pour pas que ça se reproduise, a-t-il été dit au micro. Et donc, malgré la pluie, là encore, une cinquantaine de personnes ont répondu à cet appel d'un collectif de lutte contre le sans-abrisme. Ça s'est fait en partenariat avec des associations comme Solidarité Partagée, Sac à dos, Pépite, La Carmagnole, Entraide SDF ou L'Utopia. Samuel Forest, le fondateur de l'association Solidarité Partagée, au micro, expliquait que plusieurs dizaines de personnes étaient mortes à Montpellier en 2025 et d'autres depuis le début de l'année 2026. Et il tenait à rappeler ces choses une semaine avant le premier tour des élections municipales. L'idée est en effet aussi de sensibiliser les gens et de leur donner la possibilité de participer à cet hommage en appelant les responsables politiques à prendre leurs responsabilités justement. Est-ce que c'est normal de faire des fontaines hors de prix et de vouloir des plages sur le bord du Lèze alors que des gens vivent encore dans la rue ? Interroge le porte-parole. Selon lui, les associations ont d'ailleurs sollicité la mairie pendant des mois pour obtenir des toits, et ce, sans réponse satisfaisante. Il y a même eu des expulsions de squats qui accueillaient des personnes à la rue. Samuel Forest appelle donc aussi la future municipalité à ouvrir des hébergements d'urgence. Et il rappelle qu'il y a beaucoup de femmes seules, environ 200 bébés chaque année qui se retrouvent dehors à Montpellier et que quand celle-ci appelle le 115, il n'y a plus de place. Des tracts qui ont été distribués sur place rappelaient qu'environ 1000 personnes survivaient dans la détresse sur Montpellier uniquement. Et ce tract soulignait aussi que l'âge moyen des morts de la rue en France est de 48 ans, 46 pour les femmes. D'ailleurs, une pétition a été lancée pour demander à la mairie de Montpellier d'agir face au sans-abrisme. Vous pourrez la retrouver si vous allez consulter cet article donc sur lepoint.net, le point avec un G à la fin. Quelques chiffres du climat. Une nouvelle étude vient de montrer que le réchauffement climatique s'emballe depuis 2015. Donc ce n'est pas une progression linéaire, mais bien une accélération à laquelle nous sommes invités. Le climat se réchauffe de plus en plus vite. C'est une étude de l'Institut de recherche de Potsdam sur les effets du changement climatique qui a été publiée le 6 mars de cette année, dans la Geophysical Research Letters. Cette étude montre que le réchauffement climatique s'est accéléré statistiquement depuis 2015. Le taux moyen de réchauffement aurait atteint environ 0,35 degrés Celsius sur ces 10 dernières années, contre un peu moins de 0,2 degrés Celsius par décennie pour les chiffres qui sont eux entre 1970 et 2015. Donc les chercheurs ont compilé de nombreuses données et ils ont aussi retiré certains effets naturels comme El Niño, des éruptions volcaniques ou d'autres activités solaires pour ne pas que ça fausse justement les moyennes et vraiment garder ce qui est imputable au réchauffement climatique dû au gaz à effet de serre et donc aux activités humaines. Selon l'auteur principal de cette étude, Stefan Rahmstorf, la certitude statistique de cette accélération dépasserait maintenant les 98%. Donc scientifiquement parlant, ça commence à être une assertion qu'on peut faire. Si le rythme du réchauffement observé ces 10 dernières années se maintient, le seuil de 1,5 degré Celsius, vous savez, les fameux 1,5 fixés par les accords de Paris, eh bien celui-ci sera durablement dépassé avant 2030. Les années 2023, 2024 et 2025, je vous l'ai déjà dit, sont confirmées comme les trois années les plus chaudes jamais enregistrées depuis qu'on en tout cas fait ces mesures, c'est-à-dire ça remonte je crois environ à 1870. Il existe aujourd'hui un consensus assez large, sinon universel, donc sur le fait qu'il y a eu une accélération détectable du réchauffement de ces dernières années. Et ça devrait être, je pense, l'information la plus dramatique des nouvelles, des médias, etc. Mais malheureusement, la guerre prend toujours le dessus. Et puisqu'on parle du climat, vous n'êtes pas sans le savoir, il a plu pas mal cet hiver. Et cet hiver, donc exceptionnellement pluvieux, eh bien, relance les débats sur les méga-bassines. Cette pluviométrie exceptionnelle donc, de ces derniers mois relance tous les débats, puisque par exemple début mars, dans les Pays de la Loire, une centaine d'agriculteurs ont bloqué l'A87, l'autoroute, pour dénoncer, selon eux, l'immobilisme administratif. Et ils réclamaient donc avec cette action une véritable politique de stockage de l'eau face au changement climatique. Donc à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, les exploitants agricoles appelaient, eux, de leur côté, à une mise en service de la méga-bassine de Sainte-Soline, la fameuse qui a fourni ces scènes de chaos et de répression de manifestations il y a maintenant, je crois, ça fait 3 ans. En tout cas, la méga-bassine de Sainte-Soline est construite, mais pas en activité, puisque son autorisation a été suspendue en décembre 2024. C'était par la Cour administrative d'appel de Bordeaux. En effet, l'autorisation environnementale qui avait été délivrée initialement à ce projet très contesté ne comportait pas les dérogations permettant de porter atteinte aux espèces protégées. Elle ne comportait pas non plus de mesures de protection de l'outarde canepetière, un oiseau en danger. C'est sur cette base donc que son utilisation a été suspendue. Donc la demande de ces exploitants locaux intervient après un hiver exceptionnellement pluvieux. Entre le 14 janvier et le 22 février, il a plu 40 jours d'affilée en France. C'est la série la plus longue jamais observée depuis le début des mesures, qui elle date de 1959. Et cette eau, les éleveurs en auront besoin au printemps et en été pour faire leur fourrage et alimenter leurs troupeaux. Réclamer un céréalier, par exemple, dans les colonnes du Parisien. Une année comme celle-ci, évidemment qu'on pourrait remplir toutes les méga-bassines de France, mais c'est une année exceptionnelle qui fait suite à plusieurs hivers extrêmement secs. Un rappel de son côté, Marie Baumard, qui est juriste pour l'ONG Nature Environnement, donc des Deux-Sèvres. De nombreux experts et associations écologistes estiment que les méga-bassines ne bénéficieront surtout qu'aux agriculteurs irrigants et que ces méga-bassines donc relèvent de la mal-adaptation, qu'il vaudrait mieux adapter les pratiques agricoles au changement climatique plutôt que d'essayer de récupérer le maximum d'eau. En effet, stocker le surplus d'eau en hiver empêche cette eau de s'infiltrer dans les sols, au risque de les assécher, ce qui est quand même un comble vu comme il pleut. Une grande quantité de l'eau retenue dans ces méga-bassines est d'ailleurs également perdue par évaporation dès que le soleil se remet à chauffer. Donc tout miser sur ces méga-bassines pourrait aussi maintenir le statu quo agricole, donc ne pas modifier les pratiques et bloquer le passage vers une agriculture responsable, résiliente et économe en eau. Ça, ce sont les mots du chercheur Christian Amblard qui s'exprimait sur ce sujet.
C'était vraiment très intéressant.
Et puisqu'on parle des méga-bassines et de, justement des projets de rétention d'eau, voici une bonne nouvelle, en tout cas pour les défenseurs des milieux humides. Ça concerne une de ces fameuses simplifications, les nombreuses simplifications qui ont été annoncées par le gouvernement en réponse aux mobilisations agricoles démarrées il y a 2 ans. On remonte fin avril 2024, le Premier ministre de l'époque, Gabriel Attal, présentait donc une série de mesures complémentaires pour soutenir les agriculteurs, parmi lesquelles, justement, la révision d'un texte qui est censé encadrer la création des plans d'eau, et ce pour préserver les zones humides. Une réforme donc destinée à satisfaire les syndicats agricoles majoritaires et qui va à l'encontre totale, à rebours du droit de l'environnement, puisqu'on essaye plutôt de préserver ces zones humides vu leurs très nombreux bienfaits pour l'environnement. Et bien ce lundi, le Conseil d'État vient d'annuler cet arrêté entré en vigueur il y a 2 ans, puisqu'il l'a jugé contraire au principe de non-régression en matière de protection de l'environnement. Et que dans le contexte actuel, cette nouvelle fait donc vraiment plaisir. Ça, c'est ce que se félicitait Pia Savard, juriste pour France Nature Environnement. C'est d'ailleurs France Nature Environnement qui avait saisi le Conseil d'État avec 5 autres associations environnementales, dont notamment la LPO. Et grâce à cette décision, c'est un coup d'arrêt net et franc à l'action du gouvernement dans ce sens. Cet arrêté en question, il avait donc été signé par le ministère de la Transition écologique. Il tenait en quelques lignes, à savoir que les règles qui encadrent justement la création de plans d'eau, hein, de creuser un marais par exemple, creuser un bassin, eh bien ces règles ne concerneraient plus que les projets dont la surface implantée serait supérieure ou égale à 1 hectare, la surface implantée dans une zone humide. Autrement dit, creuser ces stockages d'eau, hein, on ne parlait pas de méga-bassines forcément, parce qu'il faudrait une bâche pour que ça soit une bassine, mais on est dans la même logique. Creuser ces stockages d'eau n'était plus soumis à aucune contrainte écologique dès lors qu'on était en dessous de 1 hectare, c'est-à-dire moins de 10 000 mètres carrés. Il suffisait pour cela de faire une déclaration en préfecture, et hop, les pelleteuses pouvaient commencer à bosser. Cette mesure permettait ainsi une variété d'atteintes à l'environnement, par exemple créer un grand plan d'eau par-dessus une petite zone humide, d'un hectare ou moins toujours, créer un petit plan d'eau d'un hectare ou moins au milieu d'une plus grande zone humide, ou créer un grand plan d'eau sur une partie restreinte d'une grande zone humide. Il y avait pas mal de montages qui permettaient donc de faire en sorte de simplifier justement ces projets. Il faut s'imaginer un marécage, explique la juriste, au milieu duquel on va creuser un trou, et le trou, fatalement, va se remplir avec l'eau du marécage et assécher le marécage. C'est comme ça que de nombreuses zones humides ont d'ailleurs disparu par le passé. Des terres gorgées d'eau douce ou salée, ces milieux humides sont justement des espaces à fort enjeu écologique, économique et social. Hein. Ça, ce sont même les mots du ministère de la Transition écologique. Puisque ces espaces accueillent de très nombreuses espèces de plantes, d'amphibiens ou d'oiseaux menacés, et ils jouent un rôle majeur dans la purification de l'eau ou bien l'atténuation de certains effets du changement climatique, notamment les sécheresses et les inondations. On estime généralement que plus de la moitié des zones humides a disparu en France depuis les années 60, et principalement justement en raison de l'urbanisation ou bien du drainage des terres pour l'agriculture. En plus d'une potentielle disparition de ces espaces naturels, l'implantation d'un plan d'eau sur une partie d'une zone humide va perturber également le reste de cette zone humide avec ses fonctionnalités. Par exemple, en modifiant les habitats en présence des espèces, en réduisant les capacités de stockage de l'eau dans le sol ou en altérant les qualités physico-chimiques de l'eau. Donc, en plus, ce petit arrêté étant donné qu'en France, la majorité des plans d'eau sont en effet bien inférieurs à 1 hectare, c'était surtout, comme on dit, la porte ouverte à toutes les fenêtres, hein, parce que cet assouplissement des règles était susceptible de concerner une grande partie de tous les projets de France. Alors que la mise en eau de ces zones, même partielles, est normalement, comme on vient de le dire, susceptible justement d'altérer les qualités de ces espaces. Et ça, c'est ce qu'a reconnu le Conseil d'État dans sa décision, qui est donc allée dans le sens des associations environnementales. Et a priori, c'est un verrou, puisque le droit français empêche tout retour en arrière en matière de règles de protection de l'environnement. Hein. C'est quand je vous parlais, justement, dans leur jargon un petit peu, le principe de non-régression en matière de protection de l'environnement, c'est ça. C'est qu'on ne peut pas revenir en arrière, normalement. Il y a des petits taquets comme ça qui permettent que quand des décisions sont prises, on ne peut pas les réannuler, pour l'instant. Donc, il est de nouveau interdit de créer des plans d'eau sur des zones humides, quelle que soit la surface de ceux-ci, sauf s'il s'agit de restaurer un milieu qui a été par exemple, abîmé à cause de travaux. Donc c'est un verrou, se félicite Pia Savard, toujours juriste pour France Nature Environnement. Cela va empêcher le gouvernement de reprendre le même arrêté, car il sera annulé sur le même fondement.
Je fais what ? Mais d'où ça sort, quoi ? D'où ça sort ?
Allez, on va quand même dire quelques mots des bombardements qui ont eu lieu notamment en Iran. Et c'est un article qui le prend sous l'angle justement des dégâts environnementaux et humains évidemment, puisque cela va de pair. C'est un reportage donc dans les colonnes du journal Reporter là aussi, qui se passe à Téhéran, qui était plongé dans la nuit en plein jour, puisque la capitale s'est retrouvée sous une pluie noire et acide ce dimanche 8 mars, suite au bombardement israélien sur 30 sites pétroliers de la capitale donc iranienne, dont parmi ces 30 sites, 4 dépôts majeurs et une raffinerie. Les habitants, les photographes et les correspondants de presse décrivent des scènes apocalyptiques, alors que d'épais nuages de fumée couvraient l'horizon et que 400 frappes aériennes s'abattaient sur leur tête en une journée. On a vu aussi des vidéos de rues bordées de flammes, puisque le pétrole s'est écoulé par les caniveaux et était enflammé. Ce qu'on vient de voir est totalement fou. On parle d'une métropole de 15 millions d'habitants, touchée par des niveaux de pollution très élevés. Ce sont les mots de Kaveh Mardani, scientifique, activiste et aussi ancien vice-ministre de l'environnement pour l'Iran. C'était de 2017 à 2018. En inhalant ces fumées toxiques, dit-il, particules fines ou métaux lourds, les humains peuvent souffrir de problèmes respiratoires, de nausées, d'évanouissement et d'une détresse dans différentes parties du corps. Les enfants, les malades chroniques et les femmes enceintes sont particulièrement vulnérables. Mais il y a aussi les animaux, la terre, les nappes phréatiques qui vont être contaminées dans une boucle rétroactive. Des experts avertissent d'ailleurs de décès potentiels liés à ces fumées de dioxyde de soufre ou d'oxyde d'azote qui sont créés donc lors de la combustion du pétrole et aussi d'ailleurs suite à l'inhalation de soufre, benzène, sulfure, d'hydrogène. Nous recommandons aux Iraniens de rester chez eux pour ne pas les inhaler, explique cet expert. Mais problème, beaucoup de maisons n'ont plus de fenêtres puisqu'elles ont été soufflées par les explosions. On observe que cette pollution se déplace déjà vers d'autres pays du Golfe. D'après des rapports, la décision donc d'attaquer des réservoirs de pétrole par Israël avait été communiquée à Washington par les forces armées israéliennes, mais l'ampleur de ces attaques et des dégâts causés auraient surpris malgré tout le gouvernement états-unien, soucieux d'épargner, lui, le secteur pétrolier. Israël et les États-Unis ont donc lancé cette campagne de bombardement massive, vous le savez, contre la République islamique d'Iran, c'était le samedi 28 février, en tuant 1200 personnes et blessant 10 000 autres. Et malgré l'assassinat de l'ayatollah Ali Khamenei et d'une grande partie de ses cadres, le régime continue de résister, notamment en ciblant les pays du Golfe, alliés supposés des États-Unis. Les bombardements des deux alliés redoublent donc contre les infrastructures militaires de l'Iran, mais aussi contre des industries à double usage, comme celle du pétrole, et des infrastructures civiles. Si les sites pétroliers sont souvent pris pour cible pendant les guerres, les incendies à Téhéran sont inhabituels, car il est rare que de tels incidents se produisent dans une zone aussi densément peuplée, et il est rare aussi que de tels incidents aient le potentiel d'affecter directement la santé et le bien-être d'une population civile aussi importante. Tout cela aurait dû être pris en compte dans la décision de cibler ces sites. Ça, ce sont les critiques de Doug Ware, qui est directeur de l'Observatoire des conflits et de l'environnement, une ONG basée au Royaume-Uni. Les sites nucléaires iraniens, eux, n'auraient pas encore souffert de bombardements assez graves pour représenter éventuellement une contamination atomique. Ça, c'est ce que pense en tout cas l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique. Mais cette menace continue bien évidemment de peser, notamment alors que l'entrée du site nucléaire de Natanz a été ciblée la semaine dernière. Quoi qu'il en soit, en 11 jours de guerre, un grand nombre de sites pétroliers et énergétiques ont été touchés, en Iran, mais aussi en Arabie Saoudite, au Qatar et au Koweït. Plusieurs navires citernes ont été endommagés par des drones iraniens, ce qui ferme effectivement le stratégique détroit d'Ormuz au commerce international, et cela faisant craindre notamment le risque de marée noire, tout cela rappelant celle de la guerre du Golfe de 1991. Mathilde Jourde, qui est responsable du programme Climat, Environnement et Sécurité à l'IRIS, rappelle qu'il y a effectivement des parallèles avec ces images de 91, des puits de pétrole brûlant et libérant des quantités énormes de résidus toxiques, tout cela affectant la santé des habitants et des soldats, mais aussi l'acidification des sols. Et puis ça fait encore du CO2 dans l'atmosphère et donc encore du réchauffement climatique. Selon elle, d'ailleurs, de telles attaques contre l'environnement à des fins militaires pourraient rentrer dans les définitions de crimes environnementaux, sanitaires ou même d'écocides, selon le cadre juridique. Et au long terme, donc tout cela, je vous le disais, c'est le climat qui se retrouvera affecté. Aux émissions de CO2 directes des armées et des bombardements, il faut en plus rajouter des émissions indirectes. Par exemple, les trajectoires plus longues de tous les avions qui circulent autour de la planète pour contourner l'Iran et des bateaux aussi. La hausse de la production du pétrole pour compenser la flambée des prix. Et cette flambée des prix, tout cela auront des répercussions difficiles à estimer, explique la chercheuse. Même crainte pour l'expert Kaveh Madani en Iran. Les guerres, dit-il, relâchent forcément de grandes quantités de CO2, de pollution, et affectent toute la chaîne du vivant. Et à la fin, ce sont les humains innocents et les écosystèmes qui n'ont pas leur mot à dire dans les décisions de leur gouvernement qui se retrouvent impactés. Le fameux Anthropocène dans toute sa splendeur, voilà, ou comme dirait le poète, la guerre, l'essence même du capitalisme. Voilà, et puis on se permettra ici de ne pas pleurer ou de s'inquiéter de la hausse du prix du pétrole à la pompe, parce que je pense qu'on a peut-être d'autres chats à fouetter, mais par exemple, plutôt on pourrait pleurer sur les gens qui se prennent, eux, des bombes sur la tête. Allez, on termine ces nouvelles du monde en musique. Give me a U! Give me a C! Give me a K! What's that spell? Fuck, vous aurez peut-être reconnu Country Joe McDonald à Woodstock en 1969 qui fait hurler fuck à la foule contre la guerre au Vietnam justement. Et bien Country Joe McDonald est décédé ce samedi, une légende de la scène folk engagée contre la guerre du Vietnam. Il avait gravité dans tout ce que le rock de San Francisco faisait de mieux, Grateful Dead, Janis Joplin, Jefferson Airplane. Il s'est donc fait connaître à Woodstock avec ce morceau, I Feel Like I'm Fixing to Die Rag, devenu l'hymne contestataire par essence contre la guerre. Il est mort ce samedi 7 mars à 84 ans. Et pas sûr qu'il ait très apprécié lui non plus les bombardements sur l'Iran. Allez, ciao et à jeudi. I don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's 5, 6, 7. Open up the pearly gates. Well, ain't no time to wonder why. Whoopee, you all gonna die. Now come on, generals, let's move fast. Your big chance is here at last. Now you can go out and get those reds, cause the only good commie is one that's dead. And you know that peace can only be won when you're blowing them all the kingdom come. Sing it! 1, 2, 3. What are we fighting for? Don't ask me, don't give a damn. Louder! Vietnam. And it's 5, 6, 7. Open up the pearly gates. Well, I ain't no time to wonder why. We'll be all gone. Listen, people, I don't know how you expect to ever stop the war if you can't sing any better than that. There's about 300,000 of you fuckers out there. I want you to start singing. Come on. And it's 1, 2, 3. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's 5, 6, 7. Open up the pearly gates. Well, I ain't no time to wonder why. We're all gonna die. Now come on, mothers throughout the land. Pack your boys off to Vietnam. Come on, fathers, don't hesitate. And send your sons off before it's too late. Be the first one on your block.
Des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interviews, communiqués. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Mais que se passe-t-il?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.